avec d'autres compagnons qui vous ressemblent. Acceptez chacun de fond en comble. Et en l'acceptant absolument, vous serez plus à même de devenir en même temps l'éducateur de celui qui, par exemple, a encore un voile sur le visage et n'arrive pas à concevoir la chose juste, ou le rectificateur de celui qui a oublié sa philosophie un instant pour dire une bêtise ou pour faire un geste disgracieux. À partir du moment où vous êtes dans ce calme que vous octroie la tolérance, vous pouvez davantage être sage et donc apporter la bonne parole à cet homme. Tandis que si vous attendez la fraternité humaine dans le cœur de ces hommes-là, dès qu'un des frères va dire quelque chose qui ne vous convient pas, une vague émotionnelle se soulèvera en vous, qui vous fera dire « mais je n'aime pas tel frère, je ne me sens pas en harmonie avec lui, je ne partage pas sa pensée, il me chagrine, il me perturbe, alors je lui dis bonjour mais pas plus, j'irai parler avec d'autres ». Et c'est cette vague émotionnelle qui se soulève comme une lame de fond. C'est cette vague-là qui va vous empêcher d'être le rectificateur de ce frère qui a tort. Et non seulement elle vous empêche d'être le rectificateur, mais en plus, elle vous fait être des millions de fois plus laid que celui qui, de bonne foi, a commis une erreur, tout simplement parce qu'il n'avait pas la connaissance. Vous devenez des juges à ce moment-là. Et lorsqu'un homme devient un juge, il devient très laid. Il y a une vilaine carapace qui se crée sur son dos. Il y a d'un seul coup des épines qui sortent de son cœur. Et ses mains ne sont plus terminées par des doigts, mais par des monstrueuses tentacules, comme une pieuvre qui cherche celui qui ressemble, qui est le semblable, et qui va ainsi s'agripper à celui qui est le semblable et lui sucer tout son sang par plaisir. Tandis que si vous gardez votre calme, tandis que si rien ne peut vous perturber, donc vous êtes plus à même de donner une rectification qui sera entendue. Tandis que si vous avez perdu votre calme, et que connaissant la philosophie, vous vous permettez de rectifier le frère quand même, alors vous êtes tout simplement rempli d'orgueil. Parce que comme le disait Jésus, vous reprochez la paille qui se trouve dans l'œil du voisin et vous ne voyez pas la poutre qui est dans votre œil. Pour éviter donc d'être de sinistres imitateurs de la sagesse et des bouffons de l'orgueil, rappelez-vous de rester dans le calme, centré, toujours centré. Dans cette centralisation, vous allez regarder la vie extérieure comme vous regarderiez un mouvement, mais un mouvement qui n'est pas le vôtre. Par exemple, le mouvement de la mer. Quand vous êtes assis sur une plage et que vous regardez la mer, vous regardez les vagues, vous les observez une à une venir, et même si pendant un instant votre esprit se plonge complètement dans la beauté de ce paysage, à aucun moment votre corps ne va imiter le mouvement des vagues et donc se dandiner comme cela de manière molle, comme si une vague verticale vous agitait. Vous restez l'observateur et c'est l'océan qui bouge. Mais dans la vie, il n'en va pas de même. Beaucoup de disciples, en regardant l'océan de la vie, se mettent aussi à bouger du même mouvement que la vague de la vie. Ce qui fait que sitôt qu'il y a un mouvement dans tel endroit, ils esquissent aussi le même mouvement. Et ils ont le mal de mer. Ce qui fait que, par exemple, quand à tel endroit il y a une épidémie, il y a le malheur, l'homme croit que le malheur est à sa porte. L'homme dilate tellement son cœur qu'il s'imagine que le malheur est près de lui, qu'il est dans sa vie. Et pendant toute la nuit, il va avoir autant de soucis que s'il se trouvait à l'endroit du malheur. Quand je cite cet exemple, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir de compassion pour ce qui se passe à l'extérieur. Il faut en avoir. Mais il faut en avoir juste ce qu'il faut pour prendre conscience de l'endroit où vous êtes utile en tant qu'être d'action. Les enfants d'Afrique qui meurent de faim et de toutes sortes de maladies n'ont rien à faire de la dilatation de votre cœur qui s'émeut en voyant un reportage à la télévision, en entendant le discours de quelqu'un qui est allé là-bas. Cela ne leur rapporte rien de savoir que pendant quelques instants, dans une journée, vous vous êtes torturé l'esprit pour eux. Cela ne leur apporte rien du tout. Et au contraire, lorsque l'on connaît la force de la pensée, imaginez des millions de gens en Europe qui ont cette même pensée dans une année à l'encontre justement des enfants traumatisés et affamés de l'Afrique. Et bien d'un seul coup, il se trouve que cette chape d'énergie tombe comme encore plus de malheur sur ce pauvre pays. Ce qu'il faut donc, c'est que vous viviez la compassion comme étant le moyen de vous sensibiliser à ce qui a lieu ailleurs, comme étant le moyen qui va vous ouvrir les yeux afin de vous rendre compte de la misère des autres. Et sitôt que ce regard profond, sensible et absolu, sitôt que ce regard s'est posé à l'endroit de la misère, il faut très vite passer à l'action. Et ne pas penser à tout le malheur qu'il y a dans le monde. En se disant, entre disciples, nous sommes là en train de parler de Dieu, nous sommes là en train de faire des rituels, mais il y a tellement de malheur dans le monde, et j'y pense à chaque fois dans le rituel, pour leur envoyer de l'énergie, et ceci, et cela. Si un groupe spirituel veut être véritablement efficace pour le malheur qu'il y a dans le monde, eh bien, pendant le rituel, c'est vrai, envoyez une énergie de soulagement, mais sachez qu'à l'endroit où il y a le malheur, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Et que donc votre énergie risque d'être employée non pas à rectifier, mais peut-être à accélérer le malheur de ces gens. Tout simplement parce que là est le point ou du karma, ou de la purification, ou de l'épreuve, ou de la délivrance aussi. Car il n'y a pas que des karmas négatifs. Quand on voit des karmas de souffrance, c'est parfois un karma très positif qui est signe d'une voie de délivrance de toute une race ou de toute une nation ou d'un seul homme quand un seul homme est concerné. Mais il faut toujours que l'homme rajoute du drame à sa vision. Donc, pour ce groupe-là qui veut être vraiment utile, il faut, c'est vrai, envoyer de l'énergie, mais ne pas forcément s'attendre à ce que cette énergie apporte les bénédictions de tendresse et d'amour. Et à côté de cela, il faut faire quelque chose de tangible. Par exemple, réunir quelques vêtements, ou réunir quelques médicaments, ou réunir quelque argent, et les envoyer, en fait, à ces gens qui souffrent dans leur chair. Vous savez, il semble souvent que je me moque de la pensée des hommes. Et beaucoup d'hommes pourraient objecter que, même si cela ne sert à rien que l'on pense au malheur des autres, c'est quand même faire preuve d'une nature humaine évoluée ou avancée que de savoir s'émouvoir face à la misère de l'autre. C'est quelque part commencer à espérer qu'un mieux viendra. Et donc, on pourrait conclure que cela n'est pas négatif. Bien sûr! Si on regarde la chose comme cela, je peux considérer que cela n'est pas négatif. Mais simplement, c'est enfantin, c'est puéril, c'est de l'inaction et c'est de l'amour à pas cher. Il est bien beau de me rétorquer que C'est quand même une marque d'amour si le cœur se met à trembler face à une image d'un enfant qui souffre la faim. Mais moi, je te le dis, c'est de l'amour à pas cher que tu me racontes là. C'est de l'amour à 3 sous. Parce que sitôt que tu auras refermé le livre où tu as vu cette image, tu ne penseras qu'à une chose, c'est à la graisse qui est sur ton ventre et à rejoindre vite l'Institut de beauté qui fera disparaître cela. Ou tu ne penseras qu'à la hauteur de tes talons pour savoir quelle cambrure sied le mieux à ta jambe pour attirer les hommes. Ou si tu es un homme, tu penseras de quelle manière tu pourras le mieux obtenir une promotion dans ton entreprise. Donc ne viens pas me dire que c'est de l'amour que tu as en regardant cette image. Quelque part, c'est vrai, cela commence à être de l'amour. C'est-à-dire que, dans un premier temps, l'amour n'est pas une énergie qui va pouvoir se donner, qui va pouvoir enrichir les autres, qui va pouvoir aller nourrir les autres. L'amour est avant tout un point qui s'articulera dans la conscience comme un point d'interrogation. C'est-à-dire que quand l'amour est en train de naître dans un individu et qu'il n'est pas encore assez puissant pour le faire passer à des actes ou un véritable travail de méditation pour rayonner sur des groupes, il aura donc tout juste et suffisamment d'amour pour commencer à s'apercevoir du monde qui est autour de lui et de ce qu'il se passe dans ce monde. Donc ce n'est pas de l'amour que tu as, même si tu verses une larme de charité. C'est un début d'amour. Et dans ce sens-là, je t'encourage à le cultiver, mais uniquement dans ce sens-là. Alors que quand tu me prétends que c'est de l'amour quand même, alors je n'ai qu'une envie, c'est de le détruire parce que tu te trompes, tu fais erreur, tu es plein de prétentions et d'orgueil. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez et tu es tellement certain d'être beau et bon que tu ne veux surtout pas que l'on détruise ton image. Mais cette image-là, il faut que je la casse. Car cette image qu'il y a entre toi et le véritable amour, c'est un ennemi. Et c'est l'ignorance. Donc, sache-le. Avoir de la compassion de cette manière-là est une bonne chose. Mais ce n'est que le début de l'amour. Alors, prends cette étincelle. Au moment où tu la sens venir, au moment où tu sens ton cœur trembler parce que des hommes n'ont pas suffisamment à manger, ou parce qu'ils viennent d'être torturés, tués, ou qu'ils ont tous péri dans un grave accident, au moment où tu sens cet ébranlement prendre ton cœur et te mettre dans un grand mouvement de compassion qui aurait voulu tout leur donner, saisis cette chance pour te connaître toi-même. Saisis cette porte qui s'ouvre pour aller regarder de l'autre côté ce qui s'y trouve et tu y verras ton âme. Et si tu y vois ton âme seulement à ce moment-là, tu sauras de quelle manière il faut avoir la compassion, de quelle manière tu devras alors aller les secourir, aller les soigner, ou de quelle manière penser à eux de manière constructive pour que quelque chose s'accélère, si cela doit avoir lieu, ou que quelque chose change, si cela doit cesser, et qu'il n'y a plus qu'une poignée d'hommes qui maintient les choses dans cet état de fait. Donc, quand tu me demandes si pour ton évolution spirituelle il est bon de rentrer dans les écoles initiatiques, considérant mon discours jusqu'à présent, tu peux toi-même conclure ce que je vais dire. Ce que je pense donc, c'est que les écoles initiatiques terrestres sont une bonne matrice, quel que soit leur degré. C'est un cours préparatoire nécessaire. Il faut à un moment donné avoir marché sur ce terrain-là pour obtenir certains instruments. C'est-à-dire qu'une école initiatique actuelle ne peut pas vous donner L'illumination, l'initiation, elle ne peut même pas vous préparer à l'initiation, c'est faux. Et pensez à l'école à laquelle on appartient, en imaginant que celle-ci est une voie vers l'initiation, est une erreur fondamentale qui fait que l'on est un wagon qui s'accroche à un autre wagon. Mais seulement, on est tellement heureux quand on se sent dans la sécurité, dans une voie toute tracée, qu'il ne faut surtout pas que l'on vienne détruire. Cette confirmation-là, cette certitude-là, eh bien moi je te la casse. Et je n'en ai rien à faire si tu te trouves inconfortable. Et d'ailleurs, si tu es inconfortable, eh bien tu n'as qu'à ou t'asseoir par terre, comme ça tu seras plus par terre et tu ne pourras pas tomber plus bas. Ou bien tu quittes la salle. Ou bien tu vas pleurer dans les bras de ton voisin en lui avouant que tu t'es trompé jusqu'alors et que c'est vrai. Tu te forçais à y croire, bien que ton cœur, quelque part, supposait que ce n'était pas là la voie absolue. Sache te l'avouer à toi-même. Ne considère plus les concepts de ton mental qui te fait des affirmations toutes gratuites qu'il n'est même pas capable de comprendre de fond en comble parce que lui, il n'est pas l'intelligence. Il est tout simplement une mémoire qui te permet de reconnaître chaque matin que tu es Pierre ou Paul ou Jacques, de façon à ce que tu n'aies pas chaque jour à te redécouvrir comme un nouveau-né. Mais il n'a pas l'intelligence. Donc ce n'est pas lui qui pourra te dire « telle école est une voie initiatique » parce que regarde, ils ont tant de livres, regarde, dans les livres il y a tant de chapitres, et regarde, là sur la table il y a les instruments du rituel, et regarde, au début du temple, un initié a existé. Ça, c'est le mental qui conçoit toutes ces choses. C'est lui qui repère les informations. Et ensuite, il te ficelle un beau gâteau et il te dit, voilà, c'est sans doute une voie qui va vers l'absolu. Mais il ne peut pas tirer cette conclusion. Il n'est pas l'intelligence. Toi seul es intelligent. Par contre, tu as besoin des informations qu'il est capable de repérer dans le monde. Mais toi seul dois traiter les informations reçues. Et tu dois traiter ces informations avec ton intuition, ta voix intérieure. Écoute-la un petit peu. Écoute-la quelques secondes au moins. Écoute ce sentiment intérieur qui te dit « Là, il me semble qu'est la vérité. Là, il me semble qu'il n'y a qu'un peu de vérité. » Et là, je vois qu'il n'y a pas de vérité du tout. Et tu verras que si tu fonctionnes avec ce sentiment, avec cette intuition, tu quitteras le territoire de l'orgueil. Tu seras envahi d'une immense humilité. Parce que tout simplement, il te viendra à chaque fois la sensation que là est ta voix ou pas ta voix. Mais que ce n'est pas forcément la vérité pour tous les autres. Et donc, tu laisseras à l'autre le soin de déduire ce qu'est sa voix. Tandis que si tu es certain, grâce à ton mental, que ton école est l'école, tu deviens plein d'orgueil, même si ce n'est pas à ton propos, mais à propos de l'école, et tu essayes d'y faire venir tous tes voisins, tous tes amis, toute la ville. Et tu prétends que ton école est la meilleure. Ou tu prétends que les autres sont bonnes. Mais que la tienne, elle seule, détient le pont avec le maître, que elle seule donne lieu à une alliance avec les anciens initiés. Tu crois à mille et une folies à partir de ce moment-là. Donc, quand tu rentres dans un temple, sache d'abord que tu ne rentres simplement que dans un temple de la terre. Ton corps entre dans un temple de la terre. Et qu'à ce titre-là, ils sont tous utiles parce qu'il aura fallu aller te chercher jusque dans la matière. Donc, il fallait jusque dans la matière un temple qui existe, qui parle, qui baptise, qui exorcise. Mais ce temple-là est un peu comme la main physique du maître. Ce n'est pas le pouvoir du maître. Et bien que le pouvoir du maître semble sortir de la main du maître, il ne faut pas se précipiter sur sa main pour l'embrasser, car ce ne serait pas embrasser l'endroit exact d'où vient son pouvoir. Son pouvoir vient du cœur. Et le cœur du monde, c'est Shambhala. C'est comme cela, du moins, qu'on le nomme aujourd'hui, ce temple-là. C'est sous ce nom-là qu'il est le plus connu, alors utilisons-le, peu importe. Donc, il faut savoir que les temples de la terre sont très utiles, mais qu'en aucun cas ils représentent une voie d'illumination. Par contre, ils sont les lieux où l'on va préparer l'individu à recevoir le chemin, à recevoir la connexion avec le maître, à recevoir le travail cosmique qui lui appartient, sa méthode de méditation par exemple, sa méthode d'alchimie. Et c'est pour cela que souvent on a cru que les temples de la terre étaient des voies initiatiques. Parce que c'est vrai que certains temples, surtout durant leur jeunesse, savaient fort bien préparer les hommes à toute l'aventure initiatique que l'on ne peut vivre que de l'autre côté de toute manière. Et du fait du brio de cette préparation, les descendants ont pensé que la clé initiatique reposait dans le temple. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Et j'en veux pour preuve le fait que lorsqu'un initié est proche de recevoir une élévation, cela ne se passe en aucune manière dans le temple auquel il appartient. Cela ne se passe pas au moment du rituel qu'il a l'habitude de partager avec ses frères et sœurs. Cela se passe toujours en secret, dans son cœur, soit par un dédoublement. Le guide vient le chercher, et dans l'au-delà, il passe l'initiation. Soit il aura souvenir de la chose simplement par le rêve. Mais cela ne se passe jamais à l'intérieur de l'école. Et même les temples qui savaient précieusement préparer les individus, qui savaient les mettre en condition. Par exemple, je prends les temples d'Égypte. Eh bien, ces temples-là ne donnaient pas l'initiation à l'intérieur du temple, entre les colonnes. Toute la préparation avait lieu dans le temple, mais au moment où il fallait que le disciple soit seul face à lui-même pour son élévation, plus personne n'était là. On le mettait dans son caveau, dans une préparation spéciale. On l'entourait de parfums spéciaux. Et surtout, on chantait des sons. Sept sons qui sont les sept clés de délivrance et d'ouverture des sept corps subtils de l'individu. De façon à ce que, avec tous ses corps, le disciple, vivant et réveillé de l'autre côté, puisse remporter son initiation. Et dans cet état-là, le disciple était transporté à l'endroit unique de l'initiation sur la terre. L'endroit que l'on appelle aujourd'hui Shambhala, par exemple, et qui à cette époque se nommait autrement. Et c'est à cet endroit-là où il était éprouvé, où il passait tous les tests et où il recevait finalement, s'il avait gagné, l'initiation. Je cite cela donc comme étant une preuve que l'école elle-même n'est qu'une préparation pour vous amener à un moment donné. Et ce moment donné ne pourra se vivre que de l'autre côté. Donc, je vous en prie, remettez chaque chose à sa place. Ne soyez pas des affreux bornés par le mental, justement, en pensant que telle école vaut mieux que l'autre, qu'en faisant cela un jour pendant le rituel ou pendant la méditation de ce groupe-là, tout l'univers va entrer dans votre tête et vous illuminer. Et pourquoi est-ce que je précise qu'il ne faut plus penser à ces choses? Je pourrais très bien vous laisser rêver, vous pourriez très bien me dire « Oui, mais c'est tellement bon de se sentir en sécurité, laisse-nous ce rêve quelque temps, nous en viendrons nous-mêmes à la même conclusion que toi, Mais jusqu'au point où nous ferons cette conclusion, pendant tout ce trajet qui mène à ce point, nous aurons vécu tranquille, avec une certitude qui nous réconforte. Eh bien, je te dis que je dois casser ces fausses idées, non pas pour avoir le plaisir de te mettre dans l'inconfort, je n'en ai rien à faire, mais simplement parce que tu y perdras de l'énergie. Et que si tu perds de l'énergie à penser des choses qui sont fausses, c'est autant d'énergie que tu n'auras pas pour ta transformation, pour ton illumination, pour ton évolution. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de plus grand déchet initiatique que dans la voie de l'ésotérisme. Parce que les gens qui pratiquent l'ésotérisme sont très forts de la tête, très forts du mental, déduisent des conclusions qui sont des idées fausses, dépensent de l'énergie à entretenir ces idées, qui les induit même quelquefois dans des comportements qui eux-mêmes sont erronés, et toute leur énergie, qui aurait pu être employée à l'alchimie, eh bien toute leur énergie est dispersée comme cela dans l'erreur. Ce qui fait que l'on voit des ésotéristes marcher dans la rue, et qui sont de véritables passoires, et les guérisseurs ne savent pas comment faire pour rectifier ces débauches de l'énergie. Ils s'emploient autant qu'ils le peuvent à colmater à gauche, à boucher à droite, à ficeler en haut, à sceller en bas. Ils ne savent plus comment faire pour consolider cette aura qui semble n'avoir aucun corps, et pour cause, et pour cause. Elle perd ses énergies, cette aura, elle n'a pas de corps, parce que l'homme est un homme dispersé, et un homme dispersé dans l'erreur. Et il croit être un disciple. Il sait très vite remettre un frère à sa place et lui rappeler la parole du maître, lui rappeler un verset de la Bible, ou de la doctrine secrète, ou des parchemins perdus, que ce soit ceux des temples égyptiens ou ceux de l'Atlantide, car il n'a pas peur d'aller très loin dans l'histoire, n'est-ce pas, pour retrouver la sagesse. Certains même disent qu'ils sont allés jusque dans les planètes sacrées pour y retrouver la lumière. Avant tout, ils sont allés dans leur nombril, je vous l'affirme. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça leur fait plaisir de se contempler telle ou telle image de celui qui sait ce que les Atlantes pensaient. Mais moi, je te le dis, à quoi cela te sert aujourd'hui, ce que les Atlantes pensaient? Qu'est-ce que tu en fais de toute manière? Tu es en train de penser, par exemple, aux véhicules qu'ils avaient, et quand tu te retrouves dans ta voiture d'aujourd'hui, qui a encore besoin de carburant pour avancer, qui a encore besoin de ta vigilance pour ne pas faire d'accident, alors d'un seul coup, tu te sens pauvre, comme vivant dans une civilisation qui ne te concerne pas. Et tu claques la porte avec colère en te disant que finalement, tu n'as rien à faire ici. Et dans cette colère-là, tu rentres à ton travail et tu vois une secrétaire qui est habillée à la mode actuelle et tu te dis, mais en Atlantide, on était bien mieux vêtus que ça. Et il y avait des couleurs fantastiques. Et encore une fois, tu te dis, cette civilisation ne me convient pas. Et tu claques la porte. Si bien que pendant toute la matinée, tu deviens un être aigri, tendu, qui va mal répondre et mal recevoir ce qu'on lui dit, tout simplement parce que tu penses à l'Atlantide, au lieu de regarder ce qu'est ton monde d'aujourd'hui, de l'aimer comme il est, et surtout d'essayer de le transformer. Beaucoup de personnes perdent du temps comme ça, perdent énormément d'énergie de la sorte, en pensant soit au passé, soit aux extraterrestres, soit à toutes les couches du cosmos, soit à tous les anges et à tous les archanges, si bien qu'il y a des employés qui rentrent dans leur bureau en ayant dans la tête la vision de l'arbre séphirotique et tous les anges qui gravitent autour. Comment voulez-vous ensuite qu'un tel employé puisse se résoudre à taper des lettres à la machine à écrire? C'est impossible. Et à ce moment-là, c'est vrai, il naît un refus de la situation présente, il naît un malaise. Quoi, moi qui pourrais passer tout ce temps à lire la Kabbale, à m'instruire, à connaître l'univers grâce à la Kabbale, je suis là en train de taper des sinistres lettres à des gens encore plus sinistres dans une civilisation qui ne va vers rien du tout. Et c'est comme cela que l'individu devient aigri. Et je le comprends. Si tu penses à toutes ces choses et que d'un seul coup la réalité te ramène à sa dureté et à son concret inacceptable, comme par exemple faire ton travail, supporter ton mari ou ta femme, élever tes enfants durement, passer des examens pour pouvoir monter, avoir d'autres promotions dans l'entreprise, bien sûr, je comprends qu'à ce moment-là, la réalité te paraisse inacceptable. Simplement, il faut que tu saches une chose. Bien sûr, en Atlantide, c'était mieux, c'est certain. Bien sûr, sur les autres planètes, celles qui sont devenues éthériques, c'est beaucoup mieux, c'est certain. Mais il faut savoir que même en Atlantide, il y avait un côté concret à assumer. Et même sur les planètes éthériques, il y a toujours une forme concrète de responsabilité à assumer. Et que cette forme concrète est mille fois plus désagréable que ton simple travail. Que ce soit un travail de secrétaire, un travail de femme au foyer, ou un travail d'homme qui a besoin de s'agrandir. Chaque fois que l'on a à faire quelque chose de concret, l'esprit qui a commencé par évolution à s'intéresser aux choses subtiles, l'esprit refuse un petit peu. Mais c'est à toi d'être suffisamment intelligent pour pouvoir faire l'alliance entre les deux parties de la vie. Si tu n'es pas intelligent, automatiquement les deux parties vont devenir antagonistes et tu vas périr dans le conflit. Si bien qu'au lieu de travailler par exemple 10 ans de ta vie comme il faut, consciencieusement, avoir des promotions suffisantes pour un jour te retrouver à un poste qui te laisse beaucoup plus de liberté et te permet dans ta journée, à ton bureau, de lire par exemple pendant 2 ou 3 heures la Kabbale que tu tiens tant à cœur, eh bien au lieu de travailler pour avoir tous ces fruits, si tu t'aigris, tu feras mal ton travail et tu n'auras pas cette possibilité dans quelque temps à l'intérieur de ta vie. Donc, sache que si l'esprit est une chose si importante pour toi, l'esprit saura faire sa place dans ta vie. Simplement, il faut que tu saches une chose, c'est que ton esprit ne peut se préparer que la place qu'il saura justement remplir et surtout assumer. C'est-à-dire que s'il te semble que toi, tu es attiré par tout ce qui est subtil et que tu ne veux que passer ton temps à étudier ou à prier ou à penser à toutes ces choses, c'est ce que tu penses à propos de toi-même et puis d'un seul coup, il y a ton travail concret qui t'embête et tu deviens en colère. Et tu reproches à Dieu de ne pas avoir inventé une société suffisamment souple pour que les disciples puissent étudier et avoir aussi un peu le temps de travailler. Eh bien, sache que la revendication que tu fais est complètement fausse. Si tu n'as pas le temps pour ton esprit, c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment. Bien sûr, tu vas me trouver très dur dans cette affirmation. Et tu vas dire, mais ce n'est pas possible, j'ai un tel désir à l'intérieur de moi. J'ai une telle envie de méditer, de passer au moins 2 heures de ma journée à méditer. J'ai un tel désir de dévorer les livres. Il est impossible que maintenant tu me nargues en me prétendant que je ne suis pas suffisamment intéressée, que je ne mérite pas tout le temps libre pour étudier et méditer. Bien sûr, tu peux penser de la sorte, libre à toi. Et pourtant, je te l'affirme, c'est parce que tu ne le mérites pas. Et quand je dis « ne le mérite pas », ne commence pas à imaginer que tous ceux qui ont dit du temps libre sont des gens qui ont mérité quelque chose. Il ne faut pas tirer des conclusions trop entières. N'oublie pas que le mental n'est pas intelligent. Sers-toi donc de ton intuition et de ton cœur pour comprendre tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Si tu n'as pas de temps libre encore, bien qu'il te semble que ton désir est aigu, et extraordinairement puissant, c'est qu'il y a certaines énergies que tu dois encore mettre au point, mettre en alignement. Et si on te donnait tout le temps libre, tout le temps disponible pour faire ce que toi tu appelles les choses de l'esprit, très vite tu t'apercevrais que finalement, les choses de l'esprit ne prennent pas tant de temps que cela. Et alors qu'aujourd'hui, parce que tu dois faire attention, tu dois t'organiser pour te trouver avec sûreté une heure de méditation dans tout le travail que tu as à faire, alors qu'aujourd'hui il te semble donc que tu dois t'organiser et que cette heure est précieuse, eh bien je t'assure que si demain je te mettais dans une disponibilité et un loisir total, tu n'aurais plus envie de méditer une heure. Tu n'aurais envie que 10 minutes. Et le deuxième jour, plus que 5 minutes. Et le troisième jour, plus rien. Étonnant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vrai. Et sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi cela se traduit de la sorte? Tout simplement parce que la nature humaine est telle que elle ne désire que ce qu'elle ne possède pas. Ce qui fait que Dieu devient très intéressant quand on n'a pas le temps pour Dieu. Parce qu'on se dit, je n'arrive pas à rencontrer Dieu, à étudier toute sa merveilleuse matière, simplement parce que la vie concrète me prend trop de temps. Alors Dieu, c'est quelque chose que l'on remet toujours au lendemain et qui suscite de ce fait toujours le même mystère, toujours le même intérêt, toujours le même attrait. Tandis que si d'un seul coup, tous les jours deviennent disponibles pour la quête, eh bien la psychologie humaine va se dire « mais il n'y a plus de mystère. Pendant des heures, il faut que je lise. Il doit y avoir une autre manière d'aller vers Dieu. » Et non seulement pendant des heures, il faut que je lise toute la cosmogonie, mais en plus c'est difficile, cela me tue l'esprit. Ah, il vaut mieux que j'aille pendant une heure faire un peu de jardinage. Ça me changera l'esprit. Et vous verriez que d'une disponibilité totale, c'est l'homme lui-même qui reviendrait à un travail matériel. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'homme intuitivement sent bien qu'il a besoin de rencontrer la terre. Il sent que quelque part, aussi grossière qu'elle soit, la terre lui est utile, même s'il en a assez de cette épouse malfaisante, même s'il ne rêve que de divorce, même s'il ne rêve parfois que de se désincarner pour rejoindre le pur esprit. Quand il est là, il sent bien qu'il a quelque chose à tirer de cette bonne vieille terre, de cette bonne vieille incarnation. Et cycliquement, l'homme retourne à la terre dans ce but. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui sont pourtant les énergies de l'esprit et qui cependant ne pourront devenir évidentes, devenir pouvoir, devenir lumière qu'en passant par la matière. Par exemple, un disciple ne pourra développer pleinement la qualité qu'est la patience que s'il se trouve dans un endroit où il rencontre des individus qui vont tenter de le rendre impatient. La matière permet donc une chose extraordinaire qu'est l'expérience. Et par cette expérience devient possible la prise de conscience. Et qu'est-ce qu'une prise de conscience? Tout le monde utilise ce mot, mais qu'est-ce que cela veut dire? Réfléchissez un petit moment. Qu'est-ce que cela veut dire « je prends conscience » Rappelez-vous des moments où vous avez pris conscience de ceci, de cela. « Je prends conscience ». Cela veut dire que je me réveille à quelque chose. Prendre conscience est donc l'acte par lequel la conscience se réveille. Alors, quand on est au début de la vie, la conscience se réveille au fait que si je marche à tel endroit, je vais glisser et tomber. Les gens penseront que c'est quelque chose de très profane. Et pourtant, à sa manière, c'est une petite illumination. Tout simplement parce que ma conscience se réveille à un fait et à une loi. C'est donc une petite illumination au niveau de la matière très physique et de la vie très physique. Chaque fois que je prends conscience que je me réveille à quelque chose, c'est une petite illumination parce que j'agrandis le champ de ma conscience et de ma connaissance. Puis plus loin, par l'expérience, je prends conscience que dans tel cas, il faut se méfier de tel beau parleur ou de tel style de parole. Et les gens du profane diront que là n'est pas une illumination, et pourtant si, puisque ta connaissance s'enrichit, puisque ton moyen d'action s'agrandit, que ton discernement s'agrandit, c'est une forme d'illumination. Tu deviens de plus en plus conscient du monde qui t'entoure. Et c'est une illumination. Celui qui est pleinement conscient du monde qui l'entoure, du type d'acte qui est favorable à ce moment-là et pas à cet autre, eh bien, je vous le garantis, c'est une illumination. Un homme qui est dans cet état-là, si bien qu'il connaît tout le monde extérieur, qu'il connaît la vie, comme on dit, eh bien, c'est une illumination, mais à propos de la matière. Et il y a donc les illuminations que l'on essaye d'intégrer dans l'arc qui descend dans la matière. Et il y a les illuminations que l'on essaye d'intégrer dans l'arc qui remonte vers le ciel. Et tout le monde se précipite vers les illuminations qui conduisent vers le ciel. Tout le monde pense à la spiritualité en ces termes-là. Et tout le monde néglige l'arc descendant. Tout le monde néglige la société. Et on se contente de faire des reproches. Lorsque quelqu'un, par exemple, nous a battus, on se contente d'aller voir, par exemple, un homme que l'on estime comme nous étant supérieur initiatiquement, et l'on s'en plaint. Et l'on dit, ce n'est pas possible que Dieu ou que les maîtres permettent l'incarnation de tels individus, on devrait les envoyer sur la Lune ou sur Jupiter, mais pas sur la Terre. Et pourtant, alors qu'il semble dans son cœur que la remarque est tout à fait justifiée, dans son cœur pour nous, à ce moment-là, on ne voit que ténèbres. Parce que peut-être il désire les illuminations de l'esprit qui va dans le ciel, mais il n'a pas compris qu'il doit aussi obtenir les illuminations de l'esprit qui est dans la matière et qui y descend de plus en plus. Car ce que le disciple ignore la plupart du temps, c'est que sa descente n'est pas terminée. Il se dit, je suis incarné, alors maintenant il faut que j'arrive à me tirer de cette matière. Que ce soit par la mort, par la lumière, par le Hatha Yoga, il faut que j'arrive à me tirer hors de cette matière. Tu ne penses qu'à repartir alors que tu n'es même pas encore tout à fait descendu. Alors comment pourrais-tu repartir? C'est impossible. Et c'est pour cela que tes aspirations ne sont que des malaises à un moment donné et ne font que te faire refuser la vie telle qu'elle t'apparaît. Parce que tu n'as pas le droit de repartir, de commencer ton ascension. Quelque chose te maintient à l'intérieur de la matière et tu le sens comme une puissance immense. Tu le sens comme des épreuves, tu le sens presque comme une damnation et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Il y a forcément quelque chose que j'ai raté. Tu n'as rien raté. Simplement, écoute ma parole et je te le demande. Si tu veux rejoindre l'endroit où ton ascension sera autorisée, attache-toi à descendre complètement dans la matière. Bien sûr, même si tu ignores que tu es en train de descendre dans la matière, il y a des évolutions qui s'accomplissent et qui ne sont que de l'ordre de l'esprit. C'est un fait. Parce que quand on descend dans la matière, on ne fait pas simplement que plonger, on ne vit pas que pour la matière. On est aussi esprit et l'on va donc aussi s'occuper des choses de l'esprit, ce qui fait que l'on va penser à l'évolution. Et moi, je te dis, pense à l'involution. Si tu veux véritablement avoir une chance d'évoluer, pense à t'incarner. Comment veux-tu que je te donne des ailes Si tu es coincé entre deux eaux et que tu n'as pas encore mis le pied sur la terre, c'est impossible. Et tu auras beau appeler tous les maîtres de l'univers, ils ne pourraient pas venir t'aider. Incarne-toi. Et quand je te dis cela, regarde comme tu as peur à l'intérieur de toi. Regarde cette peur qui s'est éveillée quand je t'ai dit « incarne-toi ». C'est comme si je t'avais dit « tu n'as pas fini ta chute, alors continue jusqu'à ce que tu sois au bout de l'enfer ». Et tu te dis « eh bien zut, moi qui croyais pouvoir commencer à m'envoler, voilà que l'on ne me propose qu'une chose, c'est de continuer à plonger ». Tout de suite, tu as l'impression que ton univers est fermé, fini, et que tu peux oublier le bon Dieu. Ne laisse pas ton mental parler pour toi. Ne l'oublie pas. Lui, il n'est pas intelligent. Donc, que dois-tu comprendre quand je te dis « incarne-toi » et reçois bien ce mot, laisse tes énergies toutes descendre dans ton corps et dans ta tête au lieu de flotter autour de toi. Incarne-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je te dis incarne-toi, je te dis en fait,